Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, sur le tournage des Sopranos. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Bienvenue à New York en août 2000. Dans les podcasts précédents, nous avions rencontré l'équipe de la mythique série Les Sopranos. Et on est venu les voir sur le tournage du premier épisode de la troisième saison. En extérieur, dans le North Caldwell, et à Kearney, dans le Pork Shop. En ce troisième jour, on se rend au studio Silver Cup à New York. Bah, c'est facile de les repérer. Le logo se voit de loin, depuis Manhattan. Il suffit de franchir un pont pour y arriver. Les studios Silver Cup sont à la base de bon nombre de séries tournées à New York. Les affiches de Sex and the City trônent alors aux côtés de celles des Sopranos. Depuis, des séries comme Fringe ou Person of Interest y ont élu domicile. Assez ironiquement, on y a aussi tourné Le Parrain 3 et Mafia Blues 2. Tout le rez-de-chaussée de ce complexe est une enfilade de studios gigantesques et on y a érigé ici l'intérieur de la maison familiale de Tony, l'arrière-boutique du Badabing, le club de striptease, la chambre d'étudiante de Meadow par exemple. Et devant les studios à l'extérieur, on trouve les caravanes des comédiens principaux, comme James Gandolfini ou Eddie Falco. Des caravanes absolument gigantesques, avec une chambre, un grand lit, une cuisine, un canapé. Eddie Falco nous fait d'ailleurs visiter la sienne. Donc, grosso modo, c'est là que vous vivez pendant un tournage. Qu'il s'agisse d'un tournage en extérieur ou en studio. Ouais, absolument. C'est carrément plus grand que les appartements que j'ai eu par le passé à New York. La première fois que j'ai vu ça, j'étais stupéfaite. C'est très confortable. J'ai plein de nourriture pour mon chien dans les placards. Tout ce qu'il me faut. Un micro-ondes. Un four. Un évier. C'est ma maison. Peine sortie de la caravane d'Eddie Falco, on va rencontrer Lauren Bracco, qui interprète le personnage du docteur Melfi, la psy qui a pour patient Tony Soprano.
I'm right outside of stage 6. Bonjour.
Bonjour,
ça va? Très bien. You coming? Bye. Comment ça va?
Très bien, et vous?
Oui, très bien.
C'est la partie qui vous intéresse le plus à jouer ce personnage, qu'elle soit différente de vous? Completely different?
Absolument. Absolument. C'est pour ça que je voulais ce rôle. Je ne voulais pas jouer le rôle de Carmela. J'ai demandé à David, quand je l'ai lui rencontré, si je dis c'est le rôle de Melfi. C'est ce rôle-là qui m'intéresse. Pas des autres. J'ai envie de jouer elle.
Et si dans les saisons qui arrivent, oui, votre personnage a plus de relations avec les autres, on pense beaucoup à enfin une confrontation entre Melfi et Carmela ou quelque chose comme ça. Comment voyez-vous
Mais
le
pourquoi,
futur?
Pourquoi vous pensez qu'il y aura une confrontation? Moi, je veux que le mieux pour Tony. Je veux que sa vie est mieux. Ça marche mieux, c'est qu'il vient plus calme. Et je suis sûre que Carmela veut que ça.
Donc, ça sera deux partenaires égalité pour arriver...
Je ne sais pas qu'est-ce que David va faire, mais... et j'ai envie de le rencontrer, Carmela. Comme Melfi, j'ai très envie de ces rencontres, mais on veut que de mieux pour lui.
Et votre but à toutes les deux, c'est de le rendre heureux de toute façon.
De le soigner. Différents heureux de soigner.
Les Sopranos n'ont pas simplement investi les studios, mais une partie de l'étage est réservée au bureau de la production où se croisent les superviseurs, les comptables, les scripts. Et c'est dans les studios de cette production que l'on va croiser le réalisateur. Alors non, pas Alan Coulter, celui que l'on suit depuis deux jours, non, mais Henry Bronstein. Lui, il réalisera le prochain épisode, mais il est déjà très largement au travail là-dessus.
And so right now,
et donc là, toute cette semaine va être la préparation. Je suis en préparation depuis la semaine dernière et toute cette semaine. Je prépare jusqu'à jeudi. Le tournage commence ce vendredi. Là, j'en suis à 4 jours de préparation. On a calé tous les lieux de tournage. Et là, c'est les réunions avec les responsables des différents départements, avec David, pour être sûr de savoir où l'on va. Les réunions vont donc s'enchaîner pour repérer les besoins de chaque scène en tenue, cascadeur, doublure pour les acteurs, effets visuels, etc. Et avec David Chase, Robin Green et Mitchell Burgess, les deux superviseurs du scénario de la saison, on repasse en revue chaque scène de l'épisode à venir. Ils attendent tous pour la cérémonie. Des mecs qui discutent, une ambiance en fumée, plein de gens qui fument.
A lot of people smoking and just give a sort of atmosphere of smoking.
Yeah. You know, it's too bad. I never thought of realized it until now. We should have kept this in Christopher.
Je n'y ai pas pensé plus tôt. Mais ça serait bien si tous faisaient du point de vue de Christopher.
Well, in other words, you're with it. It's his point of view all the way through. You start out scene one. It's his.
Et c'est sans doute trop tard. De son point de vue, tout du long.
You want me just to start on him coming? Tu voudrais que je le montre en train de descendre? Et ensuite, c'est par lui qu'on découvre la pièce. Je pense que si on supprime la phrase de dialogue sur l'équipe de football, on le suit en train de descendre. Il s'arrête à un moment. Et on passe à Tony qui lui dit, on y est.
Polly et Silvio sont derrière lui. Donc on sent qu'il trépigne.
Dans un bureau non loin de là, Hélène Landress, la productrice de la série, fait que toute cette équipe, toute la production, tout le tournage et les montages se déroulent au mieux. Une production comme Les Sopranos est énorme et il ne faut pas croire que HBO donne un chèque en blanc et que le budget est illimité.
You are doing a lot of location and
vous faites beaucoup de tournages en extérieur. C'est plus difficile quand il y a beaucoup de jours en extérieur plutôt qu'en studio où tous les décors sont en place. C'est toujours plus difficile quand on est en extérieur. Mais c'est aussi bien plus motivant, compte tenu du style même de la série. Ce serait très difficile, par contre, de faire 9 jours en extérieur pour un épisode. On essaie généralement d'avoir 5 jours en extérieur, 4 jours en studio. L'épisode que l'on filme en ce moment, c'est 6 jours en extérieur, 3 en studio. Le prochain sera 4 jours en extérieur, 5 en studio. On essaye de rester équilibré. S'il y a trop de jours en extérieur, je vais voir David, je discute, je râle, je me plains. Parce qu'on travaille plus quand on est en studio. La durée de mise en place pour chaque scène est plus courte.
Ok, settling in. Hands. Throw it, please.
C'est vrai qu'en studio, plusieurs équipes peuvent travailler simultanément. Et là, justement, on filme Carmela dans le décor de la maison des Sopranos. Mais pendant ce temps-là, dans un autre studio, on est dans la chambre d'étudiante de Meadow avec sa copine. Alors nous, on va s'éclipser parce qu'il est temps d'aller discuter avec David un peu plus en profondeur de la série et de ce qu'il veut en faire.
David,
comment avez-vous eu l'idée d'une série aussi dingue que les Sopranos ?
J'ai toujours été un fan de films de gangsters américains depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu beaucoup d'idées différentes sur la mafia. Cette idée particulière est apparue parce que j'étais en thérapie, et pendant cette thérapie, je parlais beaucoup de ma mère. Je pense que les gens veulent beaucoup parler de leur mère en thérapie. Ma mère était un personnage très inhabituel. Donc ma femme m'a toujours suggéré d'écrire à propos de ma mère. Je n'ai jamais pensé que ça aurait pu intéresser quiconque. Donc, j'ai eu cette idée de le faire comme une histoire de mafia, plutôt que celle d'un producteur yuppie. C'est de là que ça vient.
Pourquoi pensez-vous que cette série ait pris un chemin si différent ? Parce que c'est différent de n'importe quelle autre série visible à la télévision. Vous avez choisi d'en faire une série sur la pègre ou sur la famille ? Quelle était l'idée de base ?
La première idée était d'en faire une série sur la mafia. Mais puisque ça allait aussi concerner la mère du héros, il y aurait aussi beaucoup d'histoires de famille. Et quand je l'ai conçu au départ, c'était pour un film. Mais mes agents m'ont dit que personne ne paierait pour ça. Je les ai donc écoutés et je ne l'ai donc jamais vraiment proposé comme un long métrage. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au même moment, Quelqu'un faisait un film appelé Mafia Blues, et personne ne leur a dit que ça ne se vendrait pas. Donc ils ont continué. Mais j'ai mis mon idée de côté, et comme j'avais un contrat de développement pour la télévision, ça m'est revenu. J'avais donc cette histoire de mafia, mais j'ai pensé, « Oh, vous savez, ça pourrait faire une bonne série dramatique familiale. » Mais je ne voyais pas ça comme une série familiale. Ça restait une série de gangsters. La raison pour laquelle je le fais dans le New Jersey, c'est parce que je ne voulais pas voir une série de plus sur la mafia tournée dans la ville même de New York, où vous en avez déjà vu 1 million. Le New Jersey a un visage différent. En fait, nous avons discuté avec des gangsters de New York, et ils disent qu'ils ont toujours appelé ceux du New Jersey les gangsters fermiers. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que ce sont les mêmes personnes, mais c'est juste une taquinerie.
Hormis l'histoire de gangsters, il y a quand même une histoire de famille. Tony et toute sa famille. L'histoire de la famille est la vraie racine de la série.
Je le pense, oui. Je pense que la dynamique familiale est la partie la plus intéressante de la série. Je ne sais pas si vous avez ça en France, mais nous avons tous vu des séries familiales. Et très souvent, je les trouve ennuyeuses parce qu'il n'y a pas réellement d'enjeu à part de savoir si la fille va perdre sa virginité ou si la fille a perdu la gouttière de son appareil dentaire et combien ça va coûter. Qui s'en préoccupe ? Ce n'est pas intéressant. Même si vous mettez en place une histoire à propos de perdre sa virginité ou la gouttière dentaire et que vous ajoutez ça au fait que votre père est impliqué dans un business où beaucoup de gens meurent, se font voler ou tabasser, c'est une combinaison plutôt puissante. J'ai travaillé pour Josh Brown et John Falsey sur une série qui s'appelait « Les ailes du destin ». C'était un drame familial qui se passait lorsque le mouvement pour les droits civiques débutait dans le sud des États-Unis. Donc c'était beaucoup plus vivant parce que ça n'était pas juste des choses habituelles. Maman qui ne parle plus à papa ou j'ai dû faire le mur cette nuit, ce genre de choses. Ce genre de choses, c'est très bien. Mais pour moi, c'est un peu mou et ennuyeux. J'ai vu dans Les Ailes du Destin à quel point ça fonctionnait bien de superposer ce genre de choses avec un contexte historique fort.
Et bien sûr, c'est bien plus subversif que ça parce que votre héros est un tueur et que vous faites en sorte que le téléspectateur l'aime. C'est de la télévision subversive.
C'est vrai, les gens l'aiment, vous avez raison.
Donc, c'est votre manière de faire exploser la télévision. Essayez de faire aimer un tueur.
Je n'ai pas pensé à ça. Je n'y avais jamais pensé. Je m'étais fixé de ne rien faire qu'on avait déjà vu à la télévision. Et avec l'idée de faire quelque chose de plus divertissant que ça, et pas aussi mesuré, ni sans trop d'hypocrisie. Et je pense qu'à la base, c'était le premier. Vous dites ça et je réalise pour la première fois, oui, c'est la partie la plus subversive. Le héros est un tueur. Oui, je suppose.
Ce qui est très intéressant, c'est que durant notre séjour, David n'a pas arrêté de minimiser l'impact qu'aura sa série. Elle ne changera pas fondamentalement la face de l'écriture télévisuelle, d'après lui. Elle ne fera pas progresser le média. La télé-réalité, qui devenait à cette époque le sujet à la mode, avec le triomphe de Survivor, à savoir Koh-Lanta en français, fera passer le public à autre chose, d'après lui. Il n'a aucune idée de ce qu'il a déclenché, que ce sera durable, et que ça changera profondément les séries et la façon de les raconter. Nous sommes sur le tournage depuis 3 jours. Tout le monde parle de la vision de David, de la manière de faire les choses de David. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vision de David ? Vous êtes le guide pour tout ? Vous êtes un maniaque du contrôle ?
Je suppose que je suis devenu une sorte de maniaque du contrôle, oui. Ce n'est pas mon attitude normale, mais je pense que j'en suis devenu un. Je pense que depuis le début, cette série est un peu plus personnelle que les autres, pour des raisons qui ne semblent pas vraiment rationnelles. Parce que je suis italo-américain, parce que j'étais en thérapie, parce que ma mère et Livia ont certaines choses en commun. Depuis le départ, c'était inclus dedans. Mais je n'ai jamais réalisé que les gens percevraient à quel point c'est une empreinte personnelle. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette série, qui y ont amené une quantité considérable de bonnes choses. Faire des films pour la télévision est la forme d'art la plus collaborative au monde.
tremendous amounts of good things.
Mais je ne sais pas vraiment quelle était ma vision.
You know, making movies and television is the most collaborative.
Vous savez, je m'efforce vraiment de faire en sorte que ce soit plus comme un film que comme une série télé.
You know what I really tried to do was try to make this more like a feature than a television show.
This show being more real.
À chaque fois que vous allez sur le tournage, c'est pour dire que ça doit être comme la vraie vie.
Oui, mais vous savez, vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça, parce que ce n'est pas la vraie vie. Et il n'y a rien dans la série qui soit comme la vraie vie. Nous essayons d'être attentifs aux détails matériels. Mais concernant l'activité de la mafia, qui sait si c'est vrai? Nous essayons de trouver le plus d'informations possibles, mais nous ne le pouvons pas. Les gangsters américains forment une société secrète et elle n'est pas facile à pénétrer. Nous avons parlé avec des gens qui ont des contacts dans la mafia, mais qui sait s'ils nous disent seulement la vérité? Je pense que ce qui est réel, ce sont les dynamiques familiales que vous avez mentionnées tout à l'heure. Je pense que les gens sentent que c'est la manière dont les enfants se comportent et que c'est la manière dont les parents se comportent. Les problèmes qui se posent sont réalistes.
Une autre chose que nous avons découvert ces trois derniers jours passés ici, c'est que c'est vraiment une grande famille. Tout le monde semble à l'aise. Tout le monde est cool.
C'est gentil.
Ce que je veux dire, c'est que vous créez une dynamique familiale sur le tournage aussi.
C'est arrivé comme ça. Ce n'est pas moi. C'est simplement la façon dont les gens agissent. Je pense que tous ceux qui travaillent sur la série prennent leur travail très au sérieux. Et ils ne veulent pas laisser tomber la série. Donc c'est pour ça que c'est une famille et personne ne veut laisser tomber sa famille. C'est comme ça. Je pense que tout le monde est fier de ça et donc ils travaillent très dur. Et c'est vrai, nous nous entendons tous très très bien.
Comment avez-vous découvert votre acteur principal, James Gandolfini? La première fois que vous l'avez vu, c'était déjà lui? Comment ça s'est passé?
La première fois qu'il est venu, nous savions que c'était un sérieux prétendant pour le rôle. Ça remonte à 3 ans maintenant. Mais ce dont je me rappelle, c'est que Jim n'était pas très à l'aise. Vous savez, c'est un acteur de cinéma. Et je ne pense pas qu'il acceptait complètement l'idée qu'il allait jouer dans une série télé. Donc, il a passé une première audition et il devait revenir. Mais il n'est pas revenu pour la deuxième. On a dû faire un petit travail de persuasion et il est revenu. Il travaille dur dans tout ce qu'il fait. Donc je pense que l'idée de simplement prendre le scénario et de le lire devant un groupe de gens était étrange pour lui. Donc ça a pris plusieurs, je pense 3 ou 4 auditions différentes. Il n'auditionnait pas à chaque fois. Parfois, nous nous rencontrions simplement et nous discutions. C'était un processus assez long.
Donc pour tous les autres acteurs, vous les rencontrez d'abord, il y a une sorte de feeling qui passe.
Pour les autres acteurs, vous voulez dire?
Ouais.
Les autres acteurs, pour la plupart, venaient, lisaient leur texte et je disais, ouais, c'est le bon.
Mais c'est vraiment le feeling.
Eh bien, ça semble simple, mais ça ne l'était pas. Il y avait beaucoup de monde qui venait et vous vous disiez « Ah, ce n'est pas bon, ce n'est pas celui-là ». Quand j'écris quelque chose et que les acteurs le lisent durant une audition et que ça ne fonctionne pas, c'est vraiment dur, c'est terrible. Vous voyez acteur après acteur après acteur et ce n'est pas bon. Et vous vous dites « Bon, le problème c'est que le scénario n'est pas bon, parce que personne ne semble capable de le jouer ». Et vers la fin de ce processus, alors que le scénariste est sur le point d'abandonner, quelqu'un arrive, et comme ça, il l'incarne, le comprend et le projette. C'est incroyable. C'est ce qui s'est passé à chaque fois.
Au fond, de quoi ça parle? Clairement, ce n'est pas à propos de la mafia. Que font vos personnages dans la série? Y a-t-il un message dans Les Sopranos?
Non. Il n'y a pas de message. Ça parle juste de la vie sur Terre. Simplement le fait d'exister et de trébucher à travers la vie et d'essayer simplement de faire de son mieux. Je pense que c'est à propos de ça et de faire des erreurs. La série n'a jamais vraiment eu un but. Il n'y a pas de morale. Je pense que tout le monde dans la série recherche l'amour. Ils pensent tous à l'argent, mais au fond, ils cherchent vraiment l'amour et l'approbation. Ils se tirent les uns sur les autres pour obtenir plus d'argent, et tout le monde veut plus d'argent. Argent, 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 argent. Mais je pense que ce qu'ils veulent vraiment, c'est être des bébés. Ils veulent qu'on s'occupe d'eux et que quelqu'un leur dise « C'est bon, tout va bien se passer ». Ça parle de ça.
Great. Thank you very much.
On va quitter les studios Silver Cup, mais pas pour autant la série. La saison 5 a été plus longue à produire que d'habitude. Et il y a eu près d'un an et demi entre la 4 et la 5. Malgré les demandes de HBO, Chase n'est plus très certain de vouloir continuer la série. A-t-il encore des choses à raconter ? En janvier 2005, la situation est tellement compliquée qu'un dimanche, au studio, Chase, Winter, Burgess et Green débattent s'il faut continuer ou non la série, faire une nouvelle saison ou pas. Alors que le succès est absolu, total et que l'argent coule quasiment à flot. Décision est finalement prise, il y aura bien une saison 6, la dernière, qui sera divisée en deux parties. En réalité, deux saisons, mais qui n'en feront qu'une contractuellement et en termes de production et de tournage. En mars 2006, au début de cette nouvelle saison, en pleine crise de démence sénile, Oncle Junior tire sur Tony, qui est donc entre la vie et la mort. À l'hôpital, dans le coma, Tony va se rêver une autre vie, celle d'un tranquille vendeur de l'État d'Arizona, celle qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas été prisonnier de sa famille et n'avait pas pris la suite de son père à la tête de la mafia locale. On est donc sur l'idée d'une vision qui pourrait provoquer chez Tony une envie de rédemption une fois qu'il sera sorti de ce coma. Lors de cette saison, un mafieux, Vitor Spatafore, se révèle être gay. Il va devoir fuir le New Jersey et il trouvera l'amour un moment durant dans une petite ville de New Hampshire. Il reviendra finalement auprès des mafieux pour affronter son destin. Et Carmela, elle, va faire un voyage à Paris. Ça pourrait paraître bucolique, mais par contre, la deuxième partie de la saison finale, les 9 derniers épisodes diffusés un an plus tard, d'avril à mai 2007, ont pour fil rouge l'affrontement sanglant entre les mafieux de New York et ceux de New Jersey. Bobby Baccalieri, par exemple, va être exécuté alors qu'il était dans un magasin de modèles réduit et qu'il s'apprêtait à acheter une motrice de collection pour son train miniature. Bon, pour l'anecdote, le magasin existe bien réellement d'ailleurs, et il mentionne par un panneau à l'entrée que cette scène fameuse a été tournée ici même. Christopher, lui, essaie de convaincre l'acteur Ben Kingsley d'être dans son film et va se frotter à une légende d'Hollywood, Lorraine Bacall. Il va finalement voir son projet de film, Clever, un film d'horreur tourné, mais il a un terrible accident de voiture alors qu'il était avec Tony. La voiture fait plusieurs tonneaux, Tony est vivant, mais Christopher est très mal en point. Il admet qu'il est drogué, il risque donc d'être mis en prison pour avoir conduit dans cet état. Pour Tony, c'est la démonstration finale que Christopher n'est plus fiable. Tony va alors l'étouffer. Anthony Junior sort d'une histoire d'amour malheureuse et il va envisager le suicide. Johnny Sack décède en prison d'un cancer. Et Silvio Dante va tomber dans le coma suite à une fusillade juste devant le Pork Store. Face à cette explosion de violence, Tony va donc se venger. Il va faire tuer Phil Leotardo, alors que celui-ci était avec sa famille à une station d'essence.
Tell the goddamn pharmacist to call Dr. Iaconis. I should get a 60-day supply of the plavix.
Bon, alors pire que tout, sa propre voiture lui écrase lentement la tête alors qu'il est à terre.
Oh, God, no! You're locked in there!
Oui, ça c'est dégueulasse. Tout redevient donc tranquille pour la famille Soprano, qui se retrouve au cours d'un dîner, dans un diner justement. Ah ouais, c'est bien Don't Stop Believing de Journey qui a été choisi au jukebox par Tony Soprano. Anthony Junior et Carmela sont arrivés, et Milo est en train de se garer. Et puis, le noir. Ce soir-là, une majorité de spectateurs ont cru qu'il y avait eu un souci technique. Mais non, c'est bien la fin. Depuis, elle est ouverte à toutes les suppositions et interprétations. La vie continue, Tony et sa famille vont-ils se faire descendre au cours du diner? Voilà, Chase n'a jamais rien dit. En 2010, le Festival du cinéma américain de Deauville décide de créer une section série télé, baptisée Saison 1. Le choix des responsables est de laisser la part belle au créateur. David Chase est l'invité d'honneur de cette première session. J'ai le grand plaisir de modérer la conférence de David et de passer quelques minutes ensuite pour une interview. Je ne peux pas m'empêcher de revenir à mot tordu un peu sur cette fin. Pensez-vous que les gens attendent une conclusion à une série, même si c'est une série différente ? Pensez-vous qu'ils aient besoin d'une conclusion pour être rassurés? Pensez-vous que s'ils n'ont pas ce à quoi ils s'attendent, ils vous en veulent? Est-ce que les gens vous en voulaient après la fin de Soprano?
Certains étaient en colère, certains ne l'étaient pas. Certains aimaient la façon dont c'était fait, certains l'ont apprécié, certains étaient remontés.
Pensez-vous que ça affecte la série? Pas mal de gens ont dit « À cause de la fin, je ne regarderai plus jamais les Sopranos ». Beaucoup de gens disent aussi qu'à la fin de Lost, par exemple, les 6 années qui ont précédé étaient des conneries, quoi. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a de très bonnes choses, de bons personnages, une bonne écriture dans tous les épisodes. Pensez-vous qu'une fin, une fin surprenante, une fin différente, peut ruiner la perception de...
C'est pour ça que je ne vais plus jamais revoir Hamlet. Parce qu'à la fin, il se fait poignarder, donc je ne regarde plus Hamlet. C'est tellement stupide.
Au fil des années, la réputation et la notoriété des Sopranos comme étant une série exigeante et intransigeante ne s'est jamais ternie. Bientôt sortira The Menacent of Newark, un film réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase, qui est en fait un préquel de la série. Un film qui se déroule dans les années 60 et 70, en plein dans la période des émeutes raciales de New York, entre les communautés afro-américaines et italo-américaines. Michael Gandolfini, le propre fils de James Gandolfini, il tiendra le rôle d'un tout jeune Tony Soprano.
All right, well, we have our breaking news now. We can confirm the death of James Gandolfini, the actor best known, of course, for his role in The Sopranos as Tony Soprano.
Le 19 juin 2013, James Gandolfini est mort d'une crise cardiaque. L'émoi à travers la communauté artistique fut considérable. David Chase a dit de lui qu'il était un des plus grands acteurs de notre temps, un génie. Pour avoir eu la chance de connaître James, et maintenant que vous le connaissez aussi un peu à travers de ces deux podcasts, ses rencontres et ses témoignages, je peux vous confirmer que regarder James jouer, c'est se rendre compte de la puissance d'interprétation qu'il était capable de créer et de la gentillesse et de la simplicité qui se dégageait de cet homme, timide, dépassé par la notoriété, toujours sincère, jamais dans les esbroufes. Nicole Holofcener, qui l'a dirigé dans son dernier film, All About Albert, le film s'appelait In Off Said en version originale, m'a confié qu'il avait peur de se retrouver dans une comédie romantique. Il n'arrêtait pas de se déprécier. Il était très timide et ne courait pas après les célébrités, m'a-t-elle dit.
You gotta stop with this black poison cloud all the time, because I can't take it anymore.
Oh, poor you.
Le soir de la cérémonie des Emmy Awards, Edie Falco lui rend hommage.
You all knew James Gandolfini, the actor.
Vous connaissiez tous l'acteur.
I was lucky enough to know Jim, the
J'avais la chance de connaître l'homme. Pendant 10 ans, en tant que sa collègue de travail la plus proche, et pour beaucoup d'autres années en tant que son ami, c'est Jim, l'homme, qui me manquera le plus.
Thank you.
Dans le prochain Previously, nous irons au cœur d'une lointaine galaxie, à la recherche de Ryu et d'Ayato. Nous remonterons jusqu'à un message qui vient de l'espace et vous découvrirez des tonnes de choses passionnantes en montant à bord du Liabe Specials, ou comme vous le connaissez chez nous, le Sankukai. Ce podcast est disponible sur Audio Now, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.